Guy de Maupassant, La Morte. Je l'avais aimée éperdument. Pourquoi aime-t-on? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de ne plus avoir dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir et dans la bouche qu'un nom? Un nom qui monte incessamment, qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres, et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, partout, comme une prière. Je ne conterai point notre histoire. L'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontré, je l'ai aimé, voilà tout. Et j'avais vécu pendant un an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole, enveloppé, lié, emprisonné, dans tout ce qui venait d'elle, d'une façon si complète, je ne savais même plus, parfois, s'il faisait jour ou nuit, si j'étais mort ou vivant, ou sur la vieille terre, ou ailleurs. Et voilà qu'elle mourut. Comment? Je ne sais pas, je ne sais plus. Elle rentra mouillée un soir de pluie. Et le lendemain, elle toussa. Oh, elle toussa pendant une semaine environ et prit le lit. Que s'est-il passé? Je ne sais plus. Des médecins venaient, écrivaient, s'en allaient. On apportait des remèdes. Une femme lui faisait boire. Ses mains étaient chaudes, son front brûlant et humide. Son regard brillait et triste. Je lui parlais, elle me répondait. Que nous sommes-nous dit, oh, je ne sais plus. J'ai tout oublié, tout, tout. Elle mourut. Oh, je me rappelle très bien son petit soupir si faible, le dernier. La garde dit, ah ! Je compris, je compris. Et je n'ai plus rien su. Rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot, votre maîtresse. Oh, il me sembla qu'il m'insultait. Qu'elle n'était pas morte, maintenant qu'elle était morte, on ne savait plus le droit de savoir cela. Me chassait. Un autre vin qui fut très bon, très doux. Je pleurais quand il me parla d'elle. On me consulta sur mille choses pour l'enterrement. Je ne sais plus. Je me rappelle cependant très bien le cercueil, le bruit des coups de marteau quand on la cloua dedans. Oh mon Dieu! Elle fut enfermée, elle, dans ce trou. Quelques personnes étaient venues, des amis. Alors je me sauvais, je courus, je marchais longtemps à travers les rues. Puis je rentrais chez moi. Le lendemain, je partis pour un voyage. Hier, je suis rentré à Paris. Quand je revis ma chambre, notre lit, nos meubles, toute cette maison où était resté tout ce qui reste d'un être cher après son départ, après sa mort, je suis saisi par un désespoir, d'un chagrin si violent que je faillis ouvrir la fenêtre et me jeter dans la rue. Ne pouvant plus demeurer au milieu de ces choses, de ces murs qu'il avait enfermés, abrités, et qui avaient gardé dans leurs imperceptibles fissures 1000 atomes d'aile, de sa chair, de son souffle, je pris mon chapeau afin de me sauver. Et tout à coup, au moment d'atteindre la porte, je passais devant la grande glace placée là, qu'elle avait fait poser pour se voir des pieds à la tête chaque jour en sortant, pour voir si toute sa toilette allait bien, était correcte et jolie. Des bottines à la coiffure. Et je m'arrêtais en face de ce miroir qui avait si souvent reflété, si souvent, qu'il en avait gardé aussi son image. Et j'étais là, debout, frémissant, les yeux fixés sur le verre plat, profond, vide, mais qu'il avait contenu tout entière, possédé autant que moi, autant que mon regard passionné. Il me sembla que j'aimais cette glace. Je la touchais, elle était froide. Oh, le souvenir. Miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, miroir horrible qui fait souffrir toutes les tortures. Heureux les hommes dont le cœur, comme une glace où glisser s'effacent les reflets, oublie tout ce qu'il a contenu, tout ce qu'il a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré dans son affection, dans son amour. Oh, comme je souffre. Je sortis, et malgré moi, sans savoir, sans le vouloir, j'allais vers le cimetière. Je trouvais sa tombe toute simple, une croix de marbre avec ses quelques mots. Elle aima, fut aimée et mourut. Elle était là, là-dessous, pourrie. Quelle horreur! Je sanglotais, le front sur le sol. Je restais longtemps. Puis, je m'aperçus que le soir arrivait. Alors, un désir bizarre, fou, le désir d'un amant désespéré s'empara de moi. Je voulus passer la nuit près d'elle, dernière nuit, à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, on me chasserait. Comment faire? Je fus rusé. Je me levai et me mis à errer dans cette ville des disparus. J'allais. Comme elle est petite, cette ville à côté de l'autre, celle où l'on vit. Et pourtant, comme ils sont plus nombreux que les vivants, ces morts, nous, il nous faut de hautes maisons, des rues, tant de place pour les quatre générations qui regardent le jour en même temps, boivent l'eau des mêmes sources, le vin des vignes et mangent le pain frais des plaines. Et pour toutes les générations des morts, pour toute l'échelle de l'humanité descendue jusqu'à nous, presque rien, un champ, presque rien. La terre les reprend, l'oubli les efface et adieu. Au bout du cimetière habité, j'aperçus tout à coup, de l'autre côté, le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, et où l'on mettra bientôt, demain, les derniers venus. Il est plein de roses libres, de cyprès vigoureux et noirs, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine. J'étais seul, bien seul. Alors je me blottis dans un arbre vert. Je me cachai tout entier entre ses branches grises et sombres. Et j'attendis, cramponné au tronc, comme un naufragé sur une épave. Quand la nuit fut noire, toute noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas de loup, à pas sourd, lent, sur cette terre pleine de morts. J'errai longtemps, longtemps, longtemps. La terre, je ne la retrouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant dans des jambes, les tombes avec mes mains, mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même. J'allais, mais sans la trouver. Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route. Je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées. Je lisais les noms avec mes doigts en les promenant sur leurs lettres. Quelle nuit, quelle nuit! Et je ne retrouvais pas la terre, pas de lune, quelle nuit. J'avais peur, une peur affreuse, dans ces étroits sentiers entre deux lignes de tombes. Ces tombes, des tombes, toujours des tombes, à droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout des tombes. Je m'assis sur l'une d'elles, car je ne pouvais plus avancer, tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur. J'entendais autre chose aussi. Quoi ? Un bruit confus, innommable. Était-ce dans ma tête affolée ? Dans la nuit impénétrable, sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavres humains. Ce bruit, je regardais autour de moi. Combien de temps je suis resté là, je ne sais pas. J'étais paralysé par la terreur, j'étais ivre d'épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certes, elle remuait, comme si on l'avait soulevée. Oh, d'un bond, je me jetais sur le tombeau voisin. Et je vis, oui, je vis, la pierre que je venais de quitter se dressait toute droite, et le mort apparut, un squelette nu, qui de son dos courbé la rejetait. Je voyais, oh, je voyais très bien, quoique la nuit fût profonde. Et sur la croix, je pus lire « Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. Il aimait les siens, fut honnête et bon, et mourut dans la paix du Seigneur. Maintenant, le mort aussi lisait les choses écrites sur son tombeau. Puis il ramassa une pierre dans le chemin, une petite pierre aiguë, et se mit à les gratter avec soin, ces choses. Il les effaça tout à fait, lentement, regardant de ses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées, et du bout de l'os qui avait été son index, il écrivit en lettres lumineuses, comme ces lignes qu'on trace au mur avec un bout d'allumette, « Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. » Il hâta de ses duretés la mort de son père dont il devait hériter. Il tortura sa femme, tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, vola quand il le put et mourut misérable. Et quand il eut achevé d'écrire, le mort, immobile, contempla son œuvre. Et je m'aperçus, en me retournant, que toutes les tombes étaient ouvertes et que tous les cadavres en étaient sortis, que tous avaient tracé effacé les mensonges écrits par leurs parents sur la pierre funéraire pour y rétablir la vérité. Et je vis que tous avaient été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, fourbes, calomniateurs, envieux, qui avaient volé, trompé, accompli tous les actes honteux, tous les actes les plus horrible, ces bons pères, ces épouses fidèles, ces fils dévoués, ces jeunes filles chastes, ces commerçants probes, ces hommes et ces femmes irréprochables. Ils écrivaient tous en même temps sur le seuil de leur tombe, de leur demeure éternelle, la cruelle, terrible et sainte vérité que tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre. Je pensais qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe. Et sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils ouverts, au milieu des cadavres, au milieu des squelettes, j'allais vers elle, sûr que je la trouverais aussitôt. Je la reconnus de loin, sans voir son visage, enveloppé du suaire. Et sur la croix de marbre où tout à l'heure j'avais lu « Elle aima, fut aimée et mourut », j'aperçus, étant sortie un jour pour tromper son amant, elle eut froid sous la pluie et mourut. Il paraît qu'on me ramassa inanimée au jour levant auprès d'une tombe.